Europe Matin Weekend, Pierre de Villeneuve.
8h16, c'est l'interview et je suis avec Ghislain Réthy, commandant du GIGN. Bonjour mon général.
Bonjour.
Et merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous exprimer en première sur cette traque qui a duré près de 4 jours, qui a mobilisé 350 hommes, des chiens, des drones, des hélicoptères. Commençons par la fin, si vous le voulez bien, la reddition de Valentin Marcotte. Comment se sont passés les tout derniers instants ?
Alors les tout derniers instants, l'individu donc qui je pense était vraiment à bout, hein, exténué, il est extrêmement fatigué, il avait soif, il avait faim. Donc spontanément, il se rend aux forces de l'ordre qui étaient en bouclage et qui empêchaient cet individu de revenir éventuellement au village commettre d'autres méfaits. Alors le facteur déclenchant, on ne le connaît pas exactement, peut-être que la garde à vue nous le dira. Est-ce que c'est effectivement la fatigue ? Est-ce que c'est il est à bout, il est traqué, il se sent acculé ? Ou il y a peut-être aussi d'autres facteurs, peut-être notamment le message du père. On verra s'il l'a entendu ou pas, et c'est peut-être aussi ce qui lui a fait prendre conscience de la gravité de ses actes. Mais je signale aussi que 5 minutes avant sa reddition, les forces de l'ordre, le GIGN avec une équipe cynophile, avaient détecté sa cache. Voilà. Donc il n'était pas dans sa cache, mais il venait spontanément peut-être de sortir. Ça, c'est l'enquête qui nous le dira.
Quand il arrive et il dit à cette, on le signale, hein, cette patrouille de gendarmes de Nîmes qui était venue spontanément en renfort et qui l'ont cueilli en souplesse, quand il leur dit « Excusez-moi, je me rends », ça vous étonne ?
Non, ça nous étonne pas, puisque actuellement, maintenant, on connaît bien le profil de l'individu. On savait que ce n'était pas forcément un survivaliste. Donc, on savait qu'il ne pouvait pas non plus tenir des jours comme ça en forêt, dans un climat qui est quand même assez frais la nuit, très pluvieux. Donc, on n'est pas surpris par son attitude. Hein. Il avait laissé ses armes dans sa cache. Mmh. Il était venu juste avec son gilet pare-balles, peut-être avec la crainte qu'on lui tire dessus. Bien évidemment, ce n'est pas le cas du tout. Donc, on n'est pas non plus surpris qu'il arrive à une reddition comme ça, avec des excuses.
Oui, c'était important, mon général, de ne pas tirer, d'autant que c'était l'engagement qui avait été dit par son père dans ce message audio qui a été diffusé.
Oui, ça, c'est même une priorité pour nous, bien évidemment. Le cas d'usage des armes est extrêmement réglementé. Il n'y avait aucune raison de tirer. Mais c'était une hypothèse qui était fortement envisagée, hein, c'est-à-dire que l'individu, ce qu'on appelle nous le suicide by cop, n'est pas peut-être le courage de se suicider et force, entre guillemets, les forces de l'ordre à lui tirer dessus en ripostant. C'est-à-dire que si lui avait ouvert le feu en premier, ben, malheureusement, on aurait été obligé de riposter.
Général Réthy, revenons maintenant au tout début de l'opération, l'organisation, la mise en place, les équipes et donc le GIGN. Par où on commence ?
En fait, c'est très progressif, hein, mais c'est extrêmement rapide. C'est-à-dire que dans un premier temps, l'adversaire, il a l'effet de surprise. Le temps joue pour lui. Mais très rapidement, la gendarmerie met un premier dispositif qui l'encage et qui l'empêche un petit peu de sortir de sa zone. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Et ensuite, c'est toute une montée en puissance de la gendarmerie, une véritable opération militaire qui est mise en œuvre avec des moyens progressifs. Mais très rapidement, en moins de 12 heures, il y a 300 gendarmes comme ça qui sont engagés sur le terrain pour boucler la zone, pour ensuite ratisser avec le maximum de sécurité. Le GIGN qui descend, les deux antennes de Toulouse et d'Orange qui viennent aussi immédiatement sur les lieux. Vous l'avez dit tout à l'heure, des moyens conséquents, des moyens aériens, des hélicoptères, des drones pour recueillir du renseignement avec un minimum de risque, des moyens techniques, d'autres moyens techniques, des équipes cynophiles. Ben c'est tout le savoir-faire gendarmerie et cette capacité intégrée de gestion de crise qui est mise en œuvre sur le terrain.
Des équipes cynophiles avec des chiens Saint-Hubert à la truffe très très sensible. Hein.
Oui, c'est un chien qui a la particularité d'avoir une capacité olfactive qui est bien supérieure à celle des autres chiens. Spontanément, on pense aux chiens gendarmerie type malinois. Ils ont été utilisés aussi, mais c'est bien le Saint-Hubert qui a fait la différence et qui nous a permis de nous rapprocher de cette piste et de découvrir cette cache.
Alors, il y a effectivement les équipes de gendarmerie. Et vous, le GIGN, sur quoi vous vous concentrez dès le début de cette opération ?
Alors nous, on se concentre sur ce qu'on appelle les points chauds. Le but, c'est de faire prendre un minimum de risque pour les forces de sécurité intérieure engagées. Donc, dès qu'il y a un point particulier susceptible d'héberger Monsieur Marcon, c'est le GIGN qui va faire les vérifications avec un maximum de précautions. Donc, c'est des gilets pare-balles, c'est des véhicules blindés, c'est de l'armement, ce qui permet de minimiser les risques pour les autres gendarmes.
C'est l'escadron de recherche hein, qui a été beaucoup mobilisé ces jours-ci. C'est un escadron du GIGN dont on parle moins que les autres, qui a des capacités absolument hallucinantes hein, en termes de, vous parliez de survivalisme tout à l'heure, mais en tout cas de courage et de ténacité sur le terrain.
Alors effectivement, il y a des capacités de renseignement qui ont été mises par le GIGN. Vous l'avez souligné, c'est une capacité qui est parfois méconnue, mais c'est aussi des capacités principalement quand même d'intervention, des capacités d'interpellation de l'individu. Le but pour nous, c'était l'interpeller vivant pour le remettre à la justice, mais c'est aussi des capacités de négociation. La négociation, c'est un outil de gestion de crise. Ça a contribué à bien cerner le profil de notre individu. Et éventuellement, s'il y avait eu un point sur lequel il aurait été localisé ou éventuellement un affrontement, ça aurait été dans ce cas une négociation de contact traditionnelle, comme on sait le faire avec un forcené.
Et là, au sein du GIGN, il y a des hommes spécialisés pour justement, précisément, cette négociation.
Exactement, il y a une cellule d'ailleurs nationale de négociation, avec un réseau ensuite de négociateurs sur l'ensemble du territoire national. Donc ce sont 350 gendarmes qui sont initiés à la négociation, qui nous servent de relais, de point d'appui sur l'ensemble du territoire national,
on sait
en
que
métropole et outre-mer.
On sait en général que la sélection pour le GIGN est très dure, hein. L'entraînement est pas facile du tout, près de 4 jours de trac. Comment est-ce que vos hommes, les hommes du GIGN, ont fait pour tenir, petit 1, pour ne pas se faire remarquer, petit 2, et pour adapter, bien sûr, adapter en fonction de l'évolution de la situation, leur technique d'approche?
Alors, contrairement à Valentin Marcon, nous avions quand même la capacité de nous alimenter, de boire, voire même un petit peu de se reposer, bien évidemment, ce que n'avait pas notre adversaire. Donc là-dessus, on avait un ascendant. Mais après, c'est aussi une capacité d'entraînement spécifique. Mais je tiens à souligner quand même que c'est pas uniquement le GIGN qui a
bien
fait
sûr.
Cette traque. Hein. C'est aussi tous les gendarmes qui eux aussi ont été engagés pendant plus de 80 heures, quasiment non-stop, et qui ont permis cette fin et ce dénouement heureux.
Ouais, mais comment on fait pour tenir là? Parce que effectivement, vous parlez des autres gendarmes qui portent forcément n'ont pas le même entraînement que les hommes du GIGN. C'est il y a une sorte de cohésion qui se forme.
Il y a une cohésion globale, telle qu'on la retrouve dans toutes les unités militaires. Donc la formation, je pense, du gendarme est très orientée sur la militarité, ce qui lui permet de tenir dans le temps. Effectivement, la formation du GIGN est bien plus poussée, ce qui a permis aussi de lever des points qui n'étaient pas accessibles forcément avec des gendarmes d'unités traditionnelles.
Qu'est-ce que vous appelez justement ces points non accessibles?
C'est par exemple des grottes, ce sont des lignes de crête, ce sont à un moment il y avait même des carrières. Faut vraiment imaginer un terrain qui est extrêmement hostile. Certes, il ne fait que entre guillemets 20 km², mais 20 km², c'est quand même un quart de la superficie de Paris, avec une végétation très dense, avec un fort dénivelé. Et comme je le soulignais, il faut prendre un maximum de précautions. Donc ça veut dire des gilets pare-balles extrêmement lourds, des casques, de l'équipement complémentaire. Donc c'est aussi tout ce contexte qui fait que la traque a été extrêmement compliquée.
Et justement, sur le renseignement, comment on fait? On pose des capteurs, on les enferme, on les met dans des grottes, on les pose sur des arbres?
Alors c'est effectivement, je ne vais pas dévoiler les capteurs qui ont pu être posés, mais ce sont des capteurs effectivement qui ont été posés. C'est aussi des moyens aériens avec des drones de capacité diurne, des capacités nocturnes, des caméras thermiques. Mais le renseignement, il vient principalement aussi des enquêteurs, la section de recherche, le groupe d'observation de surveillance, qui ont été directement impliqués dans cette manœuvre, qui ont permis de vraiment cerner le profil de Monsieur Marcon pour savoir s'il avait des velléités éventuellement de partir à l'étranger, au contraire de rester à proximité de son domicile, quel type d'équipement il avait pu prendre, quel type d'armement il avait pu s'emparer. Et c'est vraiment ce qui a conforté l'hypothèse que l'individu était très certainement dans le périmètre qui avait été très rapidement bouclé et qui n'a pas pu sortir et qui n'était pas sorti de ce périmètre.
En général, dernière question, est-ce qu'à un moment donné vous avez eu... est-ce que vous avez retenu votre souffle? Est-ce que votre cœur s'est arrêté à un moment donné?
Non, pas particulièrement.
Comment on fait pour garder son sang-froid?
Non, le plus gros soulagement, c'était bien évidemment le dénouement, qui est un dénouement extrêmement heureux pour la population, puisque c'était quand même elle qui aurait pu être visée. Il n'y a pas eu non plus de blessés parmi les forces de sécurité intérieure, parmi les gendarmes. Donc ça aussi, c'est un dénouement extrêmement heureux. Et le troisième dénouement heureux, c'est que l'individu est interpellé vivant. Donc il a été remis à la justice. Il est actuellement en garde à vue. Ce qui permettra, je pense, aux familles et aux proches d'avoir un procès et de comprendre ce qui s'est passé dans la tête de M. Marcon.
Merci beaucoup, mon général, général Ghislain Réthy, commandant du GIGN, d'avoir été sur Europe 1 et d'avoir accordé votre première prise de parole à notre radio.